le journal Virginie Pironon. Bonjour Virginie.
Bonjour. Aux États-Unis, les cloches résonneront aujourd'hui à travers tout le pays. Il y a 400 ans, arrachés à leur terre et au terme d'un voyage effroyable, les premiers esclaves africains posaient le pied sur le sol américain. Reportage dans un instant. Faire du G7 une enceinte capable de produire des solutions, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Après le dîner hier soir des chefs d'État au pied du phare de Biarritz, place à un déjeuner de travail aujourd'hui sur la lutte contre les inégalités. Le G7, justement, vous en parlez dans un instant avec votre invité, Laetitia.
Adrien Quatennens, député et coordinateur de la France Insoumise, c'est le nouvel homme fort du parti. Il anime l'université d'été qui a lieu à Toulouse, sans Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud. Son regard sur le G7, sur les mots d'Emmanuel Macron hier, quelle rentrée aussi pour la France Insoumise. Et ben on lui posera toutes ces questions lors du grand entretien tout à l'heure à 8h20.
Le G7 encore et les conjoints des chefs d'État à Espelette ce matin. Au programme notamment, visite d'une boutique d'espadrilles du 35 au 41. Chacune devrait trouver chaussures à son pied. Brigitte Macron a choisi elle-même les ganaches au chocolat qui seront offertes. Et puis les sports, nouveau match interrompu hier soir en raison de chants homophobes dans les tribunes, cette fois en Ligue 1, le journal des sports, c'est dans quelques minutes.
France Inter.
Leur arrivée a changé à jamais le visage de l'Amérique. Il y a 400 ans, jour pour jour, le 25 août 1619, débarquaient sur le sol américain les tout premiers esclaves venus d'Afrique, ouvrant la voie à près de 250 années d'esclavage. Une vingtaine d'hommes et de femmes, originaires de ce qui est aujourd'hui l'Angola. Grand week-end de cérémonies à travers tout le pays, notamment dans l'état de Virginie, où sont arrivés ces premiers Africains. Notre correspondant Grégory Phillips a pu retrouver leurs descendants directs, la famille Tucker.
Elles se sont retrouvées là, une cinquantaine de personnes, dans ce petit cimetière de la ville de Hampton, où est censé être enterré William Tucker, né en 1624, soit 5 ans après le débarquement du navire White Lion, sur ses côtes de l'actuelle Virginie. Comme tous ceux réunis ici, Felicia Tucker est l'une de ses descendants.
William Tucker était l'enfant d'Antonio et Isabella, qui se trouvaient sur ce navire, le White Lion. Et nous sommes liés directement à cet enfant, le premier Afro-Américain à être né sur ces terres.
Dans ce petit cimetière afro-américain, quelques croix blanches anonymes pour se souvenir des 20 et quelques personnes, le nombre exact n'est pas connu, qui ont débarqué ce 25 août 1619 en Amérique, en provenance de ce qui est aujourd'hui l'Angola. Ces 20 et quelques hommes et femmes deviendront les serviteurs des colons anglais, puis l'esclavage sera institutionnalisé à partir de 1640. Et pour Felicia Tucker, il est capital de ce souvenir.
Il faut que les jeunes générations sachent que cette histoire leur appartient. C'est important aussi comment nos ancêtres se sont battus et ont persévéré.
Sur la tombe en marbre gris à l'entrée du cimetière, il est écrit qu'ici repose la première famille noire d'Amérique. 400 ans après, les Afro-Américains sont 45 millions aux États-Unis et beaucoup sont des descendants d'esclaves. Hampton, en Virginie, Grégory Phillips, France Inter.
Et cette traite de millions d'Africains sera suivie d'une longue période de ségrégation dont les séquelles marquent encore durablement la société américaine.
La lutte contre les inégalités, elle est au menu également des dirigeants du G7 aujourd'hui à Biarritz.
Après le dîner hier soir au pied du phare, 3 heures de discussion avec, selon nos informations, un Donald Trump très impliqué sur la crise écologique en Amazonie, la Russie ou encore l'Iran, place aujourd'hui aux questions économiques, Brexit et guerre commerciale entre Chine et États-Unis. Bertrand Galichet.
Ce matin, les membres du G7 vont d'abord prolonger entre eux les discussions qu'ils n'ont pas eu le temps de finir hier au phare de Biarritz lors d'un dîner inaugural de 3 heures. Cet agenda de sécurité porte notamment sur l'Iran et l'Ukraine, mais il sera aussi question de commerce international, sujet sur lequel Donald Trump a été stigmatisé pour avoir développé une stratégie de rapport de force. En fin de matinée, Emmanuel Macron accueille les organisations internationales, des Nations Unies à l'OCDE en passant par le FMI, qu'il veut associer au G7 pour l'ouvrir sur l'ensemble du monde. Le déjeuner sera consacré à la lutte contre les inégalités, thème central du sommet défini par le président français. Emmanuel Macron accueillera ensuite les chefs d'État et de gouvernement africains conviés au G7 sans en être membre, Afrique du Sud, Égypte, Sénégal et Rwanda. Ils seront rejoints en fin de journée par d'autres dirigeants, notamment indiens et australiens. Biarritz, Bertrand Galichet, France Inter.
Et pendant ce temps, loin des projecteurs du G7, information du journal du dimanche ce matin. Des tractations secrètes pour un compromis sur la taxe GAFA, si souvent dénoncée par Donald Trump à coups de tweets rageurs. Des discussions qui ont démarré hier, selon le JDD, dans la propriété de Bruno Le Maire, à une trentaine de kilomètres de Biarritz et qui se poursuivent aujourd'hui. Côté sécurité, maintenant, 68 personnes ont été interpellées hier, 38 toujours en garde à vue dans la soirée, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui ne donne pas plus de précisions. Une manifestation non autorisée à Bayonne en fin d'après-midi qui a rassemblé environ 300 personnes a donné lieu à de brefs heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Autre action des anti-G7 ce matin, celle des décrocheurs de portraits. 128 portraits d'Emmanuel Macron décrochés depuis le mois de février dans les mairies. Ils se donnent rendez-vous, photo du chef de l'État en main dès 10h dans les rues de Bayonne. Au même moment, histoire de pimenter leur visite, les conjoints des chefs d'État, eux, ont rendez-vous à Espelette, 2000 habitants. Au programme, chorale, pelote basque et dégustation de chocolat. Reportage signé Mathilde Dehigny.
Les hélicoptères perturbent la quiétude des lieux. Espelette, c'est la belle image du Pays basque que Patrick, touriste, conseille aux compagnes des chefs d'État.
C'est bien quand même qu'elle ne reste pas qu'à l'hôtel.
Pelote basque au fronton, chorale dans la petite église. Le programme a été bouclé par l'Élysée, mais le maire doit encore réviser, Jean-Marie Ipoutia.
Il y aura beaucoup de gendarmes qui vont contrôler les entrées piétons, mais le village sera entièrement ouvert.
Est-ce que vous avez appris le nom des premières dames ?
Non, je suis en train de travailler dessus. Voilà, puis je vais apprendre aussi quelques mots en anglais, parce que je vais les recevoir en basque, en français et en anglais aussi.
Benani et sa boutique d'espadrilles, San Goharin, est prête à recevoir les épouses.
S'il y en a une qui chausse du 35 heures, pas de souci, je vais jusqu'au 41 et voilà. J'espère que je vais arriver à les satisfaire si elles viennent dans ma boutique.
Une heure est prévue pour faire les boutiques, visiter un champ de piment, déguster du chocolat en Thionne. Brigitte Macron a choisi elle-même les ganaches au piment qui seront offertes. Éric Auger, le directeur de la chocolaterie.
Au départ, vous allez avoir une petite note salée. Ensuite, le goût de la purée de piment. Le fondant du chocolat va amener la gourmandise. 30 secondes plus tard, la force du piment qui vient en arrière-bouche.
Le maire d'Espelette promet de ne pas laisser seul trop longtemps Joachim Sauer, le mari d'Angela Merkel, qui n'est pas réputée pour aimer faire du shopping. Espelette, Mathilde Dehigny, France Inter.
Et c'est vrai que c'est sympa de la part du maire d'Espelette. Hein. C'est vrai qu'il faut aimer ça, le shopping.
C'est un sujet qui revient décidément souvent à la une cet été. Pas une semaine ni même un jour sans qu'un maire ne soit menacé.
On l'a appris hier, ouverture d'une enquête par le parquet de Montauban après des menaces de mort contre le maire de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. La semaine dernière, Jacques Tabarly a pris la décision d'accueillir dans sa commune 8 familles yézidis. Décision commentée sur Facebook par un internaute qui a proposé, je cite, de les foutre dehors et pourquoi pas de brûler le maire au passage. Jacques Tabarly qui a porté plainte, on l'écoute.
Ce sont des propos inqualifiables, surtout vis-à-vis de la population de réfugiés, parce que bon, on ne brûle pas comme ça des personnes qui ont souffert, qui ont subi tellement d'exactions, et on ne brûle pas au passage un maire parce que bon, il est dans ses fonctions, et je trouve que je suis très fier, si vous voulez, au nom du conseil municipal des Sept-Fonds-Tois, d'avoir fait ce que nous avons fait. C'est tout. Il n'y a rien de glorieux, mais on est content de l'avoir fait. Et fier. Madame la procureure adjointe a diligenté une enquête. Et puis j'ai eu des messages de soutien. Et puis des marques de la part de la population. Et je crois beaucoup au jour prochain, étant donné que nous avons 30 enfants, au fait que l'intégration se fera par les enfants encore mieux. Et sur les bancs de l'école.
Le maire de Sept-Fonds au micro de Clémence Fulda de France Bleu Occitanie. Prudence sur les routes aujourd'hui. Fin des vacances oblige. La journée est classée orange dans le sens des retours. Et puis à noter, circulation différenciée dans la petite couronne parisienne. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 et 2 sont autorisés à rouler.
Et on termine avec le dernier jour du festival Rock en scène.
Aujourd'hui en tête d'affiche au domaine de Saint-Cloud, le groupe anglais Falls. C'est la star de la musique électronique Aphex Twin, lui aussi anglais. Avec la présence cette année de The Cure en exclusivité, les Anglais n'ont jamais été aussi présents, Mathieu Culeron.
Chaque année, le pourcentage de festivaliers anglais à Rock en scène oscille entre 10 et 15%. Le festival aime les groupes anglais et les artistes leur rendent bien. Johnny Marr est le guitariste mythique des Smiths. Pour lui, la notoriété du festival a traversé la Manche.
Je voulais vraiment venir dans ce festival. Je suis déjà venu en 2014 et c'était super. Le public était très cool, très réceptif et ils ont adoré. Je sais que Rock en scène a une programmation que j'aime.
Cette année, les festivaliers anglais sont venus en force à cause de la présence de The Cure. John, la soixantaine, a fait le déplacement.
J'ai vu The Cure 4 fois cet été et je crois que c'est le meilleur concert que j'ai vu depuis 1979. Je viens de Crawley en Angleterre. La ville d'où viennent les Cure.
Hier, le groupe anglais Jungle est venu, lui, en habitué.
On a joué ici en 2015. C'était le dernier jour de la tournée de notre premier disque. Et là, c'est la même situation. La dernière fois, c'était génial. Là, ça va être fun. On va regarder Georgia Smith. Céleste est une chanteuse de Londres. L'affiche est toujours super ici.
Rock en scène, le festival francilien le plus british de l'année.
I can't feel it. Yeah. The Hit des Anglais de Jungle hier soir à Rock en Seine.
Merci Virginie Puronon.